Bonjour Robert Mizrahi, je suis content de pouvoir discuter avec vous, d'autant plus que j'étais un de vos anciens élèves à Paris 1 il y a 40 ans en philo. Alors je voudrais qu'on parle de deux de vos livres. Le premier qui vient de sortir là, qui s'appelle La joie d'amour pour une érotique du bonheur. Et puis on pourrait commencer par votre récit autobiographique qui s'appelle La nacre et le rocher. Alors, dans ce livre, vous nous parlez de votre enfance à Paris, du moment où vous décidez d'enlever votre étoile jaune. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, j'avais déjà vécu une expérience, c'est-à-dire que j'étais monté dans le premier wagon d'une rame de métro qui nous était interdit avec mon étoile, et j'ai été interpellé par un agent civil qui était un agent de Gestapo. Je croyais avoir été arrêté, je ne l'étais pas. Il m'a simplement laissé descendre et partir. Ça a été pour moi un avertissement. L'avertissement relativement à ma liberté et aux décisions que je pouvais prendre. C'est-à-dire que je fais rapidement, à l'intérieur de moi-même et très rapidement, le calcul suivant. Avec l'étoile, j'étais sûr d'être un jour ou l'autre arrêté et déporté. Et sans étoile, j'avais quelques chances de m'en tirer, de sauver ma vie. Et que j'ai décidé en outre, et c'est à moi qu'il appartenait de définir mon rapport au judaïsme et non pas au antisémite ou au nazi, j'ai retiré mon étoile dans un geste de liberté. Dans un geste de liberté que, évidemment, je ne regrette pas, dont je me félicite évidemment. Voilà, c'était pour montrer un peu, si je parle dans la nacre du rocher, c'est pour montrer un peu la place de notre liberté, de notre volonté, de notre détermination dans la conduite de notre existence. Et c'est un peu pour protester contre une passivité, une relative passivité de toute la victime du monde.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Bon, ben, c'était 1943, on va dire, 42-43, je suis de 26, 36, ça fait 10 ans, j'avais 16 ans, 16-17 ans. J'étais jeune quand même.
Et vous n'aviez pas eu l'impression de prendre un risque grave en faisant ce geste?
Ah ben si, je prenais le risque de mort. J'étais très lucide. Je prenais le risque d'être arrêté, déporté immédiatement. Parce que, comme vous le savez, sur notre carte d'identité, il y avait le tampon rouge juif. Donc je le savais. Mais je courais le risque absolu pour avoir la chance absolue de sauver ma vie.
Et vous avez l'impression que vous avez sauvé votre vie de cette façon?
Comment?
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir sauvé votre vie de cette façon?
Oui, ben complètement, complètement. Toute ma famille a été déportée. Toute ma famille qui habitait Paris et qui a porté comme ça l'étoile, comme on lui avait dit, eh ben, ils ont été déportés, arrêtés, déportés.
Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner quelques éléments de l'histoire de votre famille, que vous racontez d'ailleurs dans La Nacre et le Rocher, mais bon, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas lu le livre d'avoir ces informations-là. C'est une histoire qui est assez touchante et qui nous emmène en Turquie et vers le judéo-espagnol, vers le Judaisme. Bon.
C'est ça, absolument. Je suis descendant donc de ces juifs espagnols qui ont été expulsés d'Espagne et qui se sont réfugiés en Turquie, qui ont été accueillis en Turquie. Et en Turquie, ils ont gardé la langue espagnole de l'époque, la langue du 15e siècle, n'est-ce pas? Ils ont gardé cette langue qui est devenue judéo-espagnole, et c'était presque. J'avais deux langues maternelles, j'avais celle-là et puis le français.
Et vous le
Alors,
par vous le
je me
parlez?
référais assez souvent à la mémoire turque. Dans les années, il y a quelque temps, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai été invité à faire des cours à Istanbul. J'y suis allé, j'ai vu le pays. On m'y a très bien accueilli, mais je n'ai pas souhaité rester, bien entendu.
Mais est-ce que vous parlez ou vous comprenez encore le judaïsme ou le judéo-espagnol?
Oui, un peu, oui, je pourrais comprendre un peu naturellement. J'aime beaucoup sa musique, sa sonorité, j'aime beaucoup ses chants, les chants ladinos, les chants andalous, bien sûr, bien sûr. Et je suis un peu triste de voir que cette culture semble disparue, mais je pense qu'il y a quand même des groupes qui sont actifs, des groupes de ladinos qui sont actifs en Israël, je crois. Mais l'essentiel n'est quand même pas là. L'essentiel est la construction d'une philosophie pour la vie. Voilà.
Et
Voilà
c'est...
pourquoi j'écris beaucoup des ouvrages philosophiques. Comme vous savez, j'ai écrit trois ouvrages concernant nous. J'ai écrit un ouvrage sur l'être juif, ça s'appelait La condition réflexive de l'homme juif. Un autre ouvrage sur Israël et un autre ouvrage sur Marx et la question juive.
Vous montrez son antisémitisme quand même.
Une fois ces trois questions réglées, j'ai pensé qu'il fallait ensuite s'attacher à construire une philosophie, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une philosophie en commençant naturellement par étudier Spinoza, mais en allant plus loin que Spinoza.
Mais comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Spinoza dans votre histoire?
Je vais vous dire, c'est une excellente question. J'étais en classe de terminale et notre professeur de philosophie nous avait donné un travail à faire sur une citation de Spinoza, une citation contre le remords. Cette idée m'avait plu et j'avais décidé, pour faire un travail convenable, de me reporter à Spinoza. J'ai donc découvert Spinoza à la fois tout seul et invité quand même de loin par un professeur. Je suis entré dans l'œuvre de Spinoza et je ne l'ai pas quitté. Je me suis aperçu que c'est l'un des philosophes les plus importants de l'humanité entière, bien sûr. Et je dis ça sans nationalisme, hein, puisque, comme vous savez, il a été excommunié par la communauté juive de l'époque. On avait compris qu'il était athée, etc. Donc c'est sans nationalisme et sans esprit de clocher que je prétends que Spinoza est l'un des plus importants philosophes de l'humanité.
Quand
Car
on
il dit
lit...
tout, il propose tout. C'est vrai que je me sépare de lui sur un point important. Si vous voulez, on peut en parler, mais je veux seulement le signaler. Signaler ce point, Spinoza fonde tout sur l'affirmation du déterminisme. Le déterminisme qui, à l'époque, au XVIIe siècle, est libérateur. C'est l'ouverture de l'esprit scientifique. Il en va tout de même aujourd'hui. Moi, je suis un partisan fervent de la liberté. Mon tout dernier livre, d'ailleurs, s'appelle La liberté. Il vient d'être publié chez Autrement. Et c'est ce qui me sépare de Spinoza.
Alors, cette liberté, vous la
À
trouvez...
propos de la liberté, j'ai été intéressé aussi par l'œuvre de Sartre. J'ai été son élève, j'ai rencontré Sartre. Sa philosophie m'a beaucoup marqué. Mais là aussi, je trouve une insuffisance. Sartre ne sait pas quoi faire de la liberté. Et c'est là où moi je propose une éthique de la joie, totalement étrangère à l'œuvre de Sartre, évidemment.
Dans votre livre, La joie d'amour, vous développez toute une conception de l'amour, comme choix, comme liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, volontiers. Je constate d'abord que trop souvent, les relations d'amour, qu'elles soient, si vous voulez, institutionnelles ou non institutionnelles, trop souvent les relations d'amour tournent mal, et j'évoque les raisons, c'est-à-dire le conflit. Le conflit naît entre les libertés. Le conflit naît à la fois du combat des libertés, chacun veut la suprématie, et puis de l'aveuglement de chacun par rapport à l'autre. L'aveuglement quant à la vérité de l'autre, l'aveuglement quant à ses désirs, et puis souvent aussi une sorte de présomption où l'on pense que c'est nous-mêmes qui avons naturellement tous les droits, toute la valeur, etc. C'est-à-dire que les conflits ne naissent pas de l'amour en tant qu'amour, ils naissent dans l'amour par manque d'amour, c'est-à-dire par manque d'intelligence. Alors ce que je propose, c'est, si vous voulez, de renverser la vapeur et de commencer ensemble à faire ce que j'appelle une conversion, un renversement de l'attitude intérieure à l'égard de l'autre. C'est-à-dire un renversement, une ouverture, une affirmation de l'autre qui soit plus nette, plus forte, plus vivante qu'elle n'est couramment. Il ne faut pas que l'amour devienne simplement un narcissisme flatté. Il faut que l'amour devienne vraiment l'amour de quelqu'un d'autre. Alors naturellement, le mouvement doit être réciproque. Le respect de l'autre doit être réciproque. Mais pour qu'il y ait ce respect réciproque, très difficile et qui doit avoir lieu sur tous les domaines et dans tous les plans et à tous les moments, ce renversement total est assez difficile. Il exige bien sûr une grande intelligence et une mobilisation de la part des deux participants.
Donc vous dites à un moment donné, il faut reconnaître la liberté de l'autre pour pouvoir aimer quelqu'un, quoi.
C'est ça, il faut affirmer la liberté de l'autre pour pouvoir déployer un amour qui soit positif. Au point 2, être capable de comprendre qu'éventuellement, l'autre puisse aimer encore quelqu'un d'autre et non pas seulement nous-mêmes. Alors là, ça peut paraître scandaleux, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que chaque personne est différente. Et l'amour que je porte à une personne A n'est pas du tout le même que l'amour que je peux porter à une personne B. Mais naturellement, pour ça, il faut une grande générosité, une grande ouverture d'esprit, il faut une grande modestie aussi, et puis la très grande compréhension de la liberté créatrice de l'autre, de celui qu'on aime.
Dans les notes que vous avez écrites pour la réédition de l'éthique, qui sont passionnantes, vous faites une distinction très importante, qui se trouve d'ailleurs chez Spinoza, entre l'affect et l'affection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là?
Entre l'affect et quoi?
Et l'affection.
Ah oui, bien sûr,
Alors,
bien
est-ce que
sûr.
vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que c'est fondamental, ça.
Oui, c'est fondamental, vous avez tout à fait raison. L'affect dit très exactement ce que nous avons vu. Je vais d'abord donner sa définition et puis je vais ensuite la commenter brièvement. L'affect est pour Spinoza une affection du corps et la conscience qu'on en prend. Les deux mots sont différents, affect et affection. Affection, ça veut simplement dire qualification. Si on a une feuille de papier qui est verte, par exemple, le vert est une qualification du papier. Tandis que l'affect est la qualification du corps, mais une qualification que nous appellerions une émotion, un sentiment, une qualification du corps, mais qui en même temps est conscient. Ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il affirme que l'affect est toujours conscient. Il ne dit pas qu'il est toujours clair, puisque au contraire, il montre que la véritable liberté intérieure s'obtient par la réflexion qui va écarter les insuffisances, les idées obscures, les idées fausses, les idées imaginaires. Il ne dit pas que la conscience est une conscience claire, la conscience peut être d'abord une conscience obscure, mais la réflexion va en faire une conscience claire. Voilà ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le fait qu'il affirme en cours de route, à propos de l'affect, que le désir est l'essence de l'homme, que c'est la vie affective qui est fondamentale. Ce que dit Spinoza, ce qui a l'air très compliqué, qui est très simple, c'est ceci. C'est la vie affective qui est l'essentiel chez l'homme, mais dans la spontanéité, cette vie affective est mal conduite. Elle est trop commandée par l'ignorance et l'imagination. Redressons cette vie affective par la connaissance. Nous n'aurons pas à nous priver de joie. Au contraire, la joie est bonne. Mais ce serait une voix réfléchie et donc libre. Et il propose une éthique de la joie et de ce que je pourrais appeler la libre joie. C'est pourquoi c'est un philosophe qui me parle beaucoup et que je conseille à tout le monde, évidemment.
Merci Robert Mizrahi.